clôture mercredi dernier à Kampala, à l'Ouganda, du sommet des chefs d'État et des gouvernements, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au Katanga, les alentours de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi ont été attaqués dans la nuit de mardi à mercredi par des personnes non encore identifiées. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Quoi qu'on fasse, journaliste participe à ces débats. Il s'agit de Joël Kadet Danga, il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadet Danga.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir chers auditeurs.
Père Jean-Pierre Bojoko, journaliste à la radio Vatican, émettant depuis la cité de Vatican. Bonsoir Père Jean-Pierre Bojoko.
Bonsoir Guy Maté.
Et Jean-Baptiste Badera, qui est directeur des canaux Future Télévision au sud de Kivu et correspondant de l'AFP dans cette province, il va nous rejoindre d'ici peu. Bienvenue dans cette émission. Fin du sommet de Kampala, énième attaque à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. On écoute cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak pour savoir comment la presse a analysé ces différents événements.
Bonsoir. Le potentiel ne passe pas par le dos de la cuillère et titre à sa une. Conférence de Kampala, échec. Le quotidien avance quatre raisons pour expliquer ce qu'il considère comme étant un échec du sommet extraordinaire des chefs d'État de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Selon le tabloïd, les caprices de Kagame exaspèrent ses soutiens occidentaux face au drame humanitaire vécu dans l'est de la RDC, le poids de l'opinion publique congolaise qui veille au grain voire au détail, le quorum des chefs d'État présents à ce sommet sème le doute sur leur adhésion à la démarche. Enfin, Kampala est considéré comme juge et parti, ce qui fait dire à notre confrère que c'est encore du temps perdu. Le même point de vue est partagé par l'Observateur. Selon ce journal, les dirigeants du CIRGL, entre autres Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni, n'ont pas accordé leur violence sur les points les plus importants inscrits à l'ordre du jour, à savoir la force internationale neutre déployée le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Ce journal pense que les Congolais en général et ceux de l'Est en particulier ont des raisons de prendre leur mal en patience avant de voir naître la force internationale neutre tant attendue par les Congolais. Une force dont la RDC et le Rwanda ont une conception diamétralement opposée. De son côté, l'Avenir mentionne qu'à l'issue de ce sommet de Kampala, les chefs d'État ont décidé de créer un fonds d'assistance à la population congolaise sinistrée. L'Ouganda a promis d'y contribuer à hauteur $1 million. Ils ont également décidé d'appuyer tous les efforts de la RDC dans le processus de paix dans sa partie orientale et de sanctionner ceux qui y feront obstruction. Terminons cette revue de presse avec la tempête des tropiques qui rapporte qu'en l'espace d'une année, l'aéroport de Lubumbashi a été encore l'objet d'une attaque suspecte. Selon ce quotidien quinois, les assaillants ont réussi à s'enfuir après avoir brûlé un soldat de la garde républicaine et tué deux autres. Pour sa part, l'Observateur estime que ces assaillants pourraient appartenir à un groupe rebelle indépendantiste non identifié.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire, Joël Kadet Danga. Vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi ces nouveaux partis politiques depuis le Nord Kivu, ces réclamants de la troisième voie et qui souhaitent une forte décentralisation de l'État.
Une pure distraction dans cette vision balkaniste, le mot est mieux, pas seulement, de la RDC, parce qu'en effet, nous n'avons pas besoin d'un nouveau parti politique à l'instant. Nous avons besoin de la paix dans l'Est de la RDC. Nous aurions pu avoir une autre solution que d'avoir un énième né dans le giron politique congolais. Je crois que c'est encore une distraction, des mauvais augures malheureusement.
Père Jean-Pierre Bojoko, journaliste à la radio Vatican, émettant depuis la cité des Vatican. L'autre actualité, c'est la prestation des athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Londres.
Ah oui, j'ai essayé de suivre un peu, disons, l'actualité des Jeux Olympiques et je sais que nos athlètes sur place n'ont gagné aucune médaille et ils ont été éliminés parfois même après quelques secondes. Et je crois que c'est déplorable pour un grand pays quand même comme la République démocratique du Congo qui aligne quelques athlètes et qui ne sont pas capables pour nous amener des médailles. Et je pense que le problème, ce n'est pas de participer aux Jeux Olympiques, mais de savoir comment on organise déjà un peu le sport dans notre pays. Ça, c'est, je crois que le problème est plutôt à la source.
Merci, notre premier thème de ce soir, clôture mercredi dernier à Kampala, en Ouganda, du sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Dans leur communiqué final, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mener des actions vigoureuses pour faire cesser définitivement les combats dans l'est de la RDC. Et cela sans exclure la possibilité de prise des sanctions contre ceux qui bloquent le processus de paix. Suivons ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Jacques Molima.
Les chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont mis sur pied un sous-comité des ministres des Défenses pour étudier le projet de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière commune entre le Rwanda et la République démocratique du Congo afin de combattre les groupes armés dans cette région. Ce comité composé de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, du Congo, de la Tanzanie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo sera présidé par le ministre ougandais de la Défense, ont décidé les chefs d'État présents au sommet extraordinaire de la CIRGL qui s'est clôturée ce mercredi 8 août à Kampala. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, les chefs d'État des Grands Lacs ont décidé d'appuyer les efforts du gouvernement congolais dans la recherche de la paix dans sa partie est en proie aux groupes armés qui sèment terreur et désolation. Ils ont unanimement reconnu que la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans l'est de la RDC est provoquée par la rébellion du M23. Le comité mis sur pied doit arrêter des actions urgentes à mener pour faire cesser les combats dans la partie orientale de la RDC. Les participants au sommet de Kampala n'ont pas exclu la possibilité de sanctionner tous ceux qui obscurcissent le processus de sécurité dans l'est de la RDC. Concernant la crise humanitaire provoquée par la détérioration de la situation sécuritaire, les chefs d'État ont décidé de créer un fonds d'assistance humanitaire en faveur de la population congolaise sinistrée de l'Est. L'Ouganda a promis de contribuer à ces fonds à hauteur $1 million. Présent aux assises de Kampala, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss, s'est engagé à travailler avec toutes les parties pour la mise en œuvre des résolutions de ce sommet. Pour le patron de la MONUSCO, le sommet de la CIRGL à Kampala est important et pour la RDC et pour tous les pays de la région des Grands Lacs.
Joël Kadidanga, le sommet de Kampala a pris fin. C'est vrai que les modalités de la mise en place de la force neutre n'ont pas été définies, mais quand même les chefs d'État et de gouvernement sont tous unanimes sur le fait que c'est le M23 qui est à la base de l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Moi je crois que on a marché à reculons, Guimaté, lorsqu'on dit qu'on a reconnu que c'est le M23 qui est à la base de la déstabilisation dans l'est de la RDC. Et on a marché à reculons parce que le rapport des experts des Nations Unies avait déjà pointé du doigt celui qui est le véritable instigateur, qui est le Rwanda. Pourquoi aujourd'hui on quitte l'instigateur pour se rabattre sur des simples pions?
Mais vous vous rappelez que le Rwanda n'a jamais reconnu qu'il soutient le M23.
Mais écoutez, il y a eu des preuves bien tangibles qui ont démontré que le Rwanda est l'instigateur du M23. Et le M23 en question aujourd'hui, c'est la copie révisée et corrigée de l'AFDL, du CNDP, du RCD Goma. C'est une copie révisée et corrigée pour les atteintes des objectifs bien établis. Vous avez vu la semaine passée nos frères catholiques qui sont descendus sur la rue pour dénoncer ce qui se disait tout bas de la balkanisation de la RDC. Et aujourd'hui, lorsque à Kampala, tout le monde est d'accord que c'est le M23, moi je crois qu'on a reculé parce qu'on avait déjà beaucoup plus avancé. Là où on se retrouvait déjà, la solution aurait été que l'on puisse
identifier l'agresseur, le nommer en tant que tel, et en tant que tel, par rapport à la Charte des Nations Unies, qu'il subisse les conséquences telles que les Nations Unies le définissent. Comme c'est un pays qui s'est ingéré, qui s'est immixé dans les affaires internes d'un État, il a fallu que les Nations Unies prennent la mesure qui s'impose. Et dire qu'aujourd'hui on recule pour faire d'une agression une affaire interne, faire d'une agression une affaire congolo-congolaise, je crois qu'on a reculé. Et c'est là où je donne raison à ceux qui disent que le sommet de Kampala était un fiasco, c'était un échec, et par conséquent nous avons reculé. Nous avons reculé parce que tous nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une véritable agression, une énième agression de la RDC, malheureusement, qui fait ressortir nos faiblesses stratégiques, parce que la RDC est incapable aujourd'hui de s'assumer seule, guimatée, par rapport à une agression extérieure. Voilà un peu.
Père Jean-Pierre Boudjoukou, on a reculé en avançant, c'est les propos de Joël Kadidanga. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Bon, je pense tout d'abord que pour moi, c'est une sorte d'immersion vraiment pour, dans la politique de mon pays, que je suis à distance et maintenant j'essaie un peu...
Oui, je rappelle que vous évoluez à la Cité des Vatican.
Voilà.
Dans, journaliste à la Radio Vatican.
Voilà, et responsable aussi de la promotion de cette radio pour la zone Afrique. Et je pense que pour moi, en suivant un peu l'information du pays au loin, mais tout en ayant quand même de bonnes sources, et... Ce qui se passe pour le moment se situe plutôt au niveau un peu diplomatique. Est-ce que cela aide à résoudre les problèmes sur le terrain? Moi, je dirais que j'ai beaucoup d'interrogations pour cette rencontre de Kampala, puisque déjà, je crois, le 15 juillet, il y avait la décision de cette rencontre. Et du 15 juillet à la rencontre qui s'est déroulée le 7 et le 8 à Kampala, il y a presque déjà un mois. Ça prend du temps. Et l'interrogation est que bon... Combien de temps ça va prendre d'une rencontre à l'autre pendant que la situation sur le terrain reste quand même catastrophique?
Il faut encore attendre un mois pour que
entre-temps, la situation sur le terrain, c'est quelle situation? Et est-ce que le combat cesse? Est-ce que la population ne se déplace pas et n'est pas affamée? Tout ça, pour moi, ce sont plutôt des interrogations sérieuses. Pour moi, la situation sur le terrain, c'est toujours un autre. Et je reviens à ce que je disais auparavant. Même cette force neutre dont on parle. Et je crois qu'il faut savoir définir qu'est-ce que ça représente pour résoudre les problèmes de l'insécurité à l'est du pays. Puisque si on dit que cette force neutre doit se trouver à la frontière, disons, entre le Congo et ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda, l'insécurité ne se situe pas à la frontière. C'est peut-être pour dire qu'on n'attaque plus le pays de l'extérieur. L'insécurité se situe à l'intérieur. Et je pense que ça sera un peu une manière réductive de dire que c'est seulement le M23. Il y a quand même encore beaucoup de groupes qui insécurisent le pays. Le Rwanda vous citera aussi les forces, disons, négatives qu'ils appellent, disons, les rebelles rwandais qui sont au pays, qui constituent quand même une sorte de menace pour eux. Ça signifie que c'est un peu relatif. Nous, on voit le M23, le Rwanda, voit les rebelles qui sont au Congo. Et ça devient comme ça une sorte de, disons, de ping-pong, le Rwanda qui accuse le Congo qui accuse le Rwanda. Mais le problème, c'est quoi? Si nous, on avait une armée assez forte, personne ne pouvait nous attaquer, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Donc, la responsabilité se situerait aussi au niveau même du gouvernement ou de la République démocratique du Congo.
Joël Kadidanga, vous avez dit que le sommet de Kampala est un échec, mais la RDC a quand même obtenu de la part des chefs d'État et des gouvernements la promesse selon laquelle les pays membres de la CIRGL mèneront des actions vigoureuses de façon à faire cesser définitivement les combats dans l'est de la RDC.
Guimaté, il faudrait qu'on distingue les discours diplomatiques de l'action sur terrain. Le père venait tantôt de le dire, que les sommets vont se tenir. Je vous dis que ce n'est pas pour la première fois que les sommets ont été tenus. On est même parti du temps de l'AFDEL, du RCD et consorts, même à Antananarivo, on est allé à Sun City, on est allé à Lusaka, ainsi de suite. Mais la situation est en train de s'empirer sur terrain, pendant que les discours
diplomatiques seront toujours tenues et les chefs d'État seront en train, n'est-ce pas, de s'échanger les coups de pouce, les rires, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, ce sont nos frères qui sont sur le terrain qui meurent. C'est là où, particulièrement, je suis pas d'accord avec le père lorsqu'il dit que le Rwanda craint les forces négatives, les FDLR. Je vous dis que les FDLR qui avaient traversé la frontière congolo-rwandaise depuis 1994, je vous dis, quelle est la durée de vie que vous pouvez leur donner pour qu'ils soient encore en forme d'attaquer le Rwanda aujourd'hui? Je vous dis que les FDLR dont le Rwanda parle aujourd'hui, c'est une fabrication dans l'imagination du Rwanda pour trouver le prétexte d'attaquer toujours le Congo, pas seulement d'attaquer le Congo, mais dans l'objectif de balkaniser la RDC. Et même les autres petits cas, ce sont des groupuscules qui ne sont là que pour la survie. Ce n'est pas une armée capable de renverser un régime à Kigali, non. Aujourd'hui, quels sont les objectifs qu'ils viseraient s'il faudrait qu'ils attendent renverser le régime à Kigali? C'est pratiquement impossible. On sait exactement que les objectifs de la guerre, particulièrement pour des petits groupuscules là, constitués de 20-30 personnes, c'est pour la survie. Ils peuvent procéder à l'exploitation illicite, illégale de minerais qui sont dans l'Est pour un peu survivre. Mais comprendre qu'aujourd'hui les FDLR constituent une menace pour le Rwanda, en tout cas c'est un prétexte, c'est un alibi dans la bouche du Rwanda qu'il faut lui arracher pour trouver des occasions ou des opportunités d'agresser la RDC. Je crois, au niveau de notre diplomatie, il faudrait qu'on élève les tons et qu'on ait des gens qui maîtrisent bien la géostratégie de la région et qu'on ait un discours. C'est pourquoi j'ai loué beaucoup notre chef de l'État, le fait qu'il ait refusé que l'idée selon laquelle il faudrait que la force neutre soit constituée des autres éléments de la région, au moment où nous avons la MONUSCO ici, qui est d'ores et déjà une force neutre.
Il y avait divergence des vues par rapport à cette question, et la question je la pose au père Jean-Pierre Bojoku. Il y a une certaine opinion qui pense que la RDC est rentrée produit de ce sommet et que c'est plutôt le Rwanda qui est accusé pourtant de soutenir le M23 qui a pu obtenir gain de cause, dans le sens qu'il a imposé son point de vue selon lequel on ne devait pas adjoindre de nouveaux éléments à la MONUSCO pour que elle puisse participer dans la traque du M23 et des FDLR. On dit que c'est plutôt le Rwanda qui a obtenu gain de cause et pas la RDC.
Moi, je dirais que si on suit bien l'actualité, disons, de la région, le Rwanda n'a pas changé de point de vue à ce propos. Puisque pour eux, les forces de la MONUSCO, c'est un peu comme un éléphant blanc. Ils n'ont jamais fait confiance aux forces, disons, de la MONUSCO. C'est normal qu'ils continuent sur la même ligne de ne pas reconnaître la possibilité des forces de la MONUSCO de résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. Ça, c'est seulement l'information que nous suivons.
Voilà. Et à votre avis, pourquoi la Rwanda ne ferait pas confiance aux forces de la MONUSCO?
Puisqu'ils disent qu'ils sont incapables de mettre, disons, la sécurité à l'Est, et puis que, par exemple, ce qu'ils appellent, c'est comme ça que quand, disons, notre ami Ndanga le dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, moi je suis seulement l'information.
C'est que,
voilà, ce que dit le Rwanda, ce n'est pas que je soutiens ça ou je suis d'accord avec ça, c'est la position du Rwanda et qu'on peut lire. Alors, depuis longtemps, le Rwanda a toujours dit que les forces de la MONUSCO étaient incapables de sécuriser, disons, l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix au Rwanda et en République démocratique du Congo. C'est normal que jusqu'à présent, même avec, disons, les tentatives de trouver une solution maintenant, ils continuent toujours à garder la même position. Ça, c'est normal. Mais les problèmes qui se posent pour moi maintenant, ce sont toujours des interrogations. Que moi, je me pose beaucoup de questions. Combien de forces aurons-nous à l'est de la République démocratique du Congo ou dans la région des Grands Lacs? Puisqu'il y a déjà d'abord beaucoup de forces négatives, qu'on appelle négatives, beaucoup de rébellions, de groupes Maïmaï, ainsi de suite. Il y a les forces armées de notre pays, il y a disons, les forces de la MONUSCO qui est là. Et si on ajoute encore cette force, pour moi, ce sont aussi des concepts qu'il faut savoir définir. Quand on parle on ne veut pas de forces, une force régionale, on préfère une force internationale. Mais disons, régionale et internationale, c'est presque la même chose, puisque quand on saute déjà un pays, ça devient international. Et pourquoi refuser que ça soit régional pour les uns et international pour les autres? Et ça, c'est encore au niveau des discussions. C'est comme je disais, on va passer d'une rencontre à une autre, et à la fin des comptes, ça sera le problème des coûts qui va financer, et ça ne sera pas, pour moi, une solution pour la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.
Je vous ai annoncé qu'on devait avoir Jean-Baptiste Badera, journaliste à Canal Futur Télévision au Sud Kivu, mais à la place, nous avons plutôt Gaston Mouchid, qui est directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolozi au Katanga. Gaston Mouchid, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est votre analyse au sujet des résolutions issues du sommet de Kampala?
C'est quand même une avancée pour moi, parce que plusieurs fois la République démocratique du Congo a crié qu'elle était agressée par le Rwanda, par l'Ouganda. Il n'y a personne qui l'a cru. Mais aujourd'hui, si les Nations Unies, si les États-Unis, si la France, si les Pays-Bas peuvent reconnaître, ou plutôt l'Angleterre, peuvent reconnaître que la RDC est agressée, et c'est, à mon avis, une avancée considérable. Les chefs d'État se sont réunis, il était question de trouver une solution à ce problème. À partir du moment où déjà on sait que le Rwanda a armé les miliciens qui continuent à agresser la République démocratique du Congo, c'est que les résolutions qui sont prises, on a entendu qu'il faut vraiment trouver une solution dans l'urgence. Le 11 chefs d'État se sont mis d'accord à intervenir pour que cessent les hostilités qui ont longtemps endeuillé la République démocratique du Congo. Pour moi, je me dis, le président l'a dit, d'abord c'était des solutions diplomatiques, entre-temps ça ne nous empêche pas nous d'utiliser la FRDC pour pouvoir contre-attaquer la MONUSCO qui est en train de récupérer certains villages. Pour moi, je me dis, c'est un début du commencement parce qu'il ne faut pas avoir une solution aujourd'hui et tout de suite. Mais l'essentiel, c'est que le gouvernement congolais se soit mis à trouver une solution par la voie diplomatique et par la voie militaire.
Et l'opinion qui pense que la RDC est rentrée bredouille parce qu'elle n'aurait rien obtenu, d'autant plus que c'est plutôt le Rwanda qui est accusé de soutenir les M23, qui semble avoir imposé son point de vue.
Je suis tout à fait d'accord, mais je me dis, vous savez, ce pays ici, même le petit Rwanda ne peut pas attaquer la RDC. C'est un géant par rapport à ce petit Rwanda. Il y a des multinationales qui sont derrière les Rwandais. Et c'est eux qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas à tout prix que la paix revienne dans ce pays qui doit se redresser. Alors, il est question que les gouvernements de la RDC tirent les conséquences. Nous sommes agressés, tout le monde est d'accord qu'on est agressé, que le président de la République Kabila propose un schéma que la MONUSCO fasse le travail de sécurisation de la zone tampon, que le Rwanda qui est agresseur officiel, puisse refuser. Et que les autres qui étaient là-dedans ne disent pas quelque chose, moi je trouve ça très suspect. Je me dis que on est sujet d'un complot international. Donc la RDC a encore des problèmes. Je crois que les internationaux doivent être clairs et jouer carte sur table que de nous faire marcher.
Gaston Mouchid, parmi les résolutions, il y a celle qui dit que des actions vigoureuses seront menées pour mettre définitivement fin au combat au Nord Kivu. Et si le besoin d'utiliser la force se faisait sentir, vous pensez que cette option-là pourrait recueillir l'unanimité de tous les pays qui sont membres de la CIRGL?
Moi, je me dis qu'il n'est même pas question de demander leur point de vue. Nous sommes agressés, c'est chez nous que les gens meurent. C'est tous les jours qu'on compte de morts, c'est tous les jours qu'on compte de déplacés, c'est tous les jours que les gens sont violés. Pour moi, il faut faire comme avec M. Laurent Désiré Kabila. Contre-attaquer de façon hypothétique, parce que là, il suffit de réarmer la FRDC, leur donner tous les moyens de leur politique et attaquer le soi-disant M23 et aller jusqu'à les boutres dehors. On ne peut pas compter sur une force internationale qui tiendra à venir, parce que là, après cette résolution, il faut attendre le mois de septembre. Il faudra attendre qu'on mette encore cette force-là. Mais entre-temps, tous les jours qui passent, c'est les Congolais qui meurent. Ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Ougandais, ce ne sont pas les Éthiopiens, ce sont les Congolais. Moi, je me dis que le président de la République, le gouvernement congolais, doit faire de sorte que, entre-temps, nous, on contre-attaque. Parce que tout le monde sait que la RDC est agressée. Il ne faut pas attendre que ces gens-là trouvent des résolutions à l'autre place, parce qu'entre-temps, c'est nous qui perdons.
Père Jean-Pierre Bojoko, Gaston Mouchid pense que pour solutionner de façon définitive cette question de l'Est, il faut contre-attaquer de façon hypothétique. Et vous proposez quoi pour trouver une solution définitive à ces problèmes qui se posent à l'Est du pays?
Dans une certaine mesure, je crois que je suis d'accord avec notre ami Gaston Mouchid, dans le sens que le pays nous appartient tout d'abord. Il ne faut pas trop compter sur l'extérieur, sur les forces régionales ou les forces internationales. Si nous avions une armée capable de mater les rébellions qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, pas seulement les M23, mais toutes les rébellions, je pense qu'on n'aura même pas besoin de toutes ces rencontres, de toutes ces conférences et de toutes ces négociations. Ça signifie que la République démocratique du Congo doit s'organiser. Quand je parle de s'organiser, et c'est dans différents niveaux, au niveau militaire, au niveau politique, pour essayer d'avoir une armée républicaine capable de sécuriser notre pays et de ne pas se laisser, je crois, j'utilise le mot pour la première fois, de se laisser ridiculiser comme on continue à l'être.
Je fais le cas de Danga, la République démocratique du Congo doit s'organiser à tous les niveaux. C'est les propos de Père Jean-Pierre Boudjoko. Il y a même des analystes qui pensent que la paix durable passe par la prise en compte des points de vue de toutes les filles et fils de ces pays, pas le gouvernement congolais.
Mais c'est en effet, je suis totalement d'accord avec le Père à ce point de vue, dans la mesure où nous depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que subir la position de la communauté internationale qui a transféré une guerre qui avait commencé depuis 1987 en Ouganda et pour passer par le Rwanda et qui nous a été exportée ici chez nous. Et il a fallu que depuis tout ce temps nous réfléchissions anticipativement comment est-ce que nous pouvons remettre cette guerre, d'où est-ce qu'elle est venue. Parce que nous sommes un peuple pacifique. Il n'y a jamais eu, même lorsqu'on dit qu'il y a une guerre, elle est tribale, elle est ethnique. En tout cas, le peuple congolais, nous sommes habitués à vivre les uns aux côtés des autres.
Et à votre avis, qu'est-ce qui explique le fait que chaque fois quand la RDC fait face à ce genre de situation, les Congolais ne sont pas en mesure de mettre en place une synergie pouvant leur permettre de faire face à ces genres de problèmes?
Mais la synergie ne peut être mise en place que par le leadership que nous avons. Et c'est au niveau du leadership qu'il faudrait que l'on convoque toutes les énergies de la RDC pour réfléchir anticipativement pour la mise en place parce que au point où nous nous trouvons, Guy Maté, il faudrait qu'on repense notre système sécuritaire, qu'on repense nos services de renseignement, nos services de sécurité et notre armée. Nous avons deux gens. Moussa Laurent-Désiré Kabila avait réfléchi sur force d'autodéfense populaire. Et je crois, et même Mouchid venait tantôt de le dire, mais peut-être il ne sait pas, aujourd'hui la guerre, nous sommes en train de la faire avec les moyens de bord. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué. C'est là où je dis, il faudrait que la communauté internationale, qui nous a amené les Hutus chez nous, qu'elle même, par le biais de la France, qui est encore une fois conduite par les socialistes qui nous avaient pratiquement exporté cette guerre, que la même France aujourd'hui agisse en conséquence pour remettre l'Est de l'air chez eux. Nous sommes habitués à vivre en paix, Guy Maté. Nous nous acceptons mutuellement. On n'aime pas la guerre. On ne vit pas de la guerre chez nous.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, au Katanga, les alentours de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi ont été attaqués dans la nuit de mardi à mercredi par des personnes non encore identifiées. On a dénombré 2 morts et 2 blessés dans les rangs de la garde républicaine. Des enquêtes sont en cours pour identifier les assaillants ainsi que leurs mobiles. Réagissant à ces sujets, Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, plaide pour le rétablissement de la vérité, car d'après lui, c'est la 6e fois que la ville est confrontée à ce genre d'événements. Il demande donc à la population de rester calme et d'attendre les résultats de l'enquête menée par la commission mise en place par le Conseil provincial de sécurité. Gabriel Kyungu Akumwanza répond au micro de Colin Djuma Moussompo.
Toujours l'aéroport de la Luano, des tirs, des coups de feu, cette fois-ci c'est même pire, il y a eu mort d'homme. Ça commence à nous intriguer quand même. Pourquoi est-ce que ça doit toujours être à l'aéroport de la Luano? Et non à Kipushi, non à Manono, non à Ankoro, non je ne sais pas où à Kasenga, c'est toujours à l'aéroport de la Luano. Et moi je crois une bonne fois pour toutes qu'on trouve l'abcès, qu'on dise à l'opinion qui entretient cela. Est-ce que tantôt, oh non, ce sont les Katangais qui essayent. Hier, je crois, Okapi a même dit que ces gens-là parlaient le Swahili et le Kiruba. Mais nous voulons quand même qu'on publie le résultat de toutes ces enquêtes. Pendant qu'on est en train de tout faire, à mettre fin aux événements douloureux de Nord Kivu, c'est maintenant encore une fois l'aéroport de la Luano. Mais sincèrement parlant, ça nous fait très mal.
Père Jean-Pierre Bojoko, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Vatican, émettant depuis la cité des Vatican. Comment analysez-vous ces faits dans un espace de près de 2 ans, 2 camps militaires, un dépôt de munitions, une prison attaquée, et des fois c'est l'aéroport de la Luano qui a fait l'objet des attaques. Comment vous analysez cette situation?
J'analyse cette situation par des interrogations. Lubumbashi, c'est quand même la deuxième ville du pays, capitale économique, et pas seulement. Si on le prend du point de vue politique, et en voyant aussi le gouvernement en place pour le moment, ce sont des interrogations quand même sérieuses. Pourquoi à Lubumbashi? Et il y a aussi une coïncidence, je ne sais pas si c'est une coïncidence malheureuse. Cette attaque a coïncidé avec la rencontre de Kampala, si on voit les dates. Ce sont toujours des interrogations. Que cachent ces attaques à répétition dans la ville de Lubumbashi? Je n'ai pas d'autre point de vue que ces interrogations. Et puis, on nous parle de faits isolés, que ce n'est pas une attaque extérieure, mais, disons, un problème entre les éléments de la garde présidentielle. Alors que quelques heures ou quelques jours auparavant, on disait même que les assaillants ont pu s'échapper à la forêt. Et si c'était la garde présidentielle, comment est-ce que c'est la garde a pu s'échapper dans la forêt? Et je pense que dans une telle situation, à répétition, puisque je crois que la dernière attaque avait eu lieu en février, si ma mémoire ne me trahit pas, et quelques, disons, moins de 12 mois, il y a encore une autre attaque, et à Lubumbashi, et on n'attrape personne. Et aussi, quand je suis Kyungu à Kumwanza, je pense que c'est un responsable politique.
Il est président de l'Assemblée provinciale.
De l'Assemblée provinciale, ça signifie que c'est un acteur politique. Et les questions que lui se pose, c'est nous, journalistes, opinion publique et la population, nous devrions plutôt trouver une réponse chez lui, puisque c'est un acteur politique. Puisque ce sont des interrogations d'un responsable politique, et nous avons besoin que les enquêtes menées lors des attaques passées, qu'on sache qui avait attaqué, puisque souvent, ces personnes, souvent, on ne les attrape pas, ils disparaissent. Et alors, je voudrais finir par là. Et quand il y a des informations contradictoires, ça pose un problème, puisqu'à la fin des comptes, on ne saura jamais plus la vérité.
Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis la ville de Kolwezi au Katanga. Plusieurs questions se posent, même le père Jean-Pierre Bojoko a fait cette analyse-là en se posant plusieurs questions, notamment pourquoi à Lubumbashi, que cachent ces différentes attaques. Et nous avons le vice-gouverneur du Katanga qui a publié un rapport aujourd'hui selon lequel l'aéroport de la Luano n'a jamais été attaqué et que ces faits étaient des faits isolés entre les éléments de la garde républicaine.
Voilà, c'est Gilbert Paul Archibald, le vice-gouverneur de province, qui y a donné ses rapports. Pour lui, les bilans étaient 2 blessés et 2 gardes républicaines tués. Et que ce n'était pas une attaque de l'aéroport. Et comme l'a dit le président de l'Assemblée tout à l'heure, moi je me dis que c'est important que, même si ce sont les éléments de la garde républicaine qui se sont tirés dessus, c'est quand même grave parce qu'il y a eu 2 morts, il y a eu 2 blessés. Ça a fait paniquer la ville. On a suspendu tous les vols de nuit et tout le reste. Donc les gens n'ont toujours pas la vraie vérité. Comme il y a une commission qui a été organisée à ce propos, l'idéal serait que cette commission arrive à tirer des conclusions et que l'on sache qui a fait quoi et pourquoi, pour éviter éventuellement des situations comme ça. Comme l'a dit le révérend père, comme le dit tout le monde, si aujourd'hui il y a des tirs en l'air côté aéroport demain et après-demain, ça risque de créer une tension dans la population. Et aujourd'hui c'est grave parce qu'il commence déjà à y avoir 2 morts. Autant que cette commission qui a été organisée puisse tirer les conclusions en clair et que l'on punisse ce qu'il faut punir, pour éviter que les gens cèdent dans la spéculation.
Gaston Sid, vous êtes à Kolwezi, au Katanga. Qu'est-ce que vous apprenez sur place?
D'accord, en fait, nous avons la même version. On sait qu'il y a eu, la nuit, il y a eu énormément de coups de feu. Les gens qui vivent aux abords de l'aéroport de Lubumbashi avaient peur. On ne savait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est le matin que, quand les gens se réveillent, quand la circulation est devenue normale, que les officiers de l'État sont allés pour donner une conclusion. C'est comme ça que l'autorité provinciale a donné sa version de fait. C'est que il y a eu deux morts et deux autres blessés. Et pour lui, les quatre victimes sont tous de la garde républicaine. Donc c'est des gardes républicaines qui se sont tirées entre elles. Donc c'est ça la version que nous avons, parce que comme ça s'est passé la nuit, à mon avis, très humble avis, il n'y a aucun journaliste qui allait s'hasarder, aller à l'aéroport quand ça tire pour pouvoir tirer aussi ses conclusions. C'est la guerre ou c'était une altercation. Mais les officiels de l'État ont donné la version que nous croyons être officielle.
Joël Kadé-Danga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Curieusement, les cibles de ces assaillants, c'est toujours l'aéroport, la prison, les camps militaires, les dépôts des munitions. À votre avis, en attaquant ces endroits qui sont stratégiques, quel est le message que voudraient faire passer ces assaillants?
Le père a répondu en y allant par les questionnements, et j'adore sa méthodologie. Lorsque il dit, et vous avez posé la question, je crois que ceux qui sont en train de réfléchir sur la balkanisation de notre pays ont déjà identifié le point faible de notre pays. Ils savent que dans l'opinion katangaise, il y a une petite frange qui est encore en train de rêver le Katanga uni, à l'époque le Katanga séparé du reste de la RDC. Et à l'est de la RDC, on sait déjà que facilement on peut détacher une partie de la RDC pour créer un état tampon entre le Rwanda et la RDC dans le but, dans le prétexte de la sécurité dans la région. Et l'objectif serait éventuellement cet aspect-là, parce que selon quelques rapports nous parvenus, il semble que ceux qui avaient attaqué le 3 et le 4 février 2011, c'était des personnes armées qui seraient membres de la coordination de l'organisation des référendums de l'autodétermination pour les Katanga Korak, qui avaient organisé une attaque contre le même aéroport international de la Luano. L'auditorat militaire les avait arrêtés, mais ils ont pris fuite ensemble avec le seigneur de guerre Kyungu Mutanda appelé Gédéon, et qui a repris encore la guerre aujourd'hui.
Mais le fait d'attribuer chaque fois ces attaques à ceux qu'on qualifie de sécessionnistes, cela n'est pas une diversion?
Ça peut autrement s'appeler comme ça, mais c'est là qu'il faut. Le père, il va toujours par les questionnements. C'est là qu'il
le père
faut,
Jean-Pierre Boujoukou.
Oui, c'est là qu'il faut repenser les services de renseignement de notre pays, les services de sécurité, qui doivent travailler en amont, au lieu de travailler en aval pour arrêter les petits journalistes, les activistes des droits de l'homme qui font des déclarations en public. C'est là qu'un service de renseignement devrait, les services de sûreté de l'État, de sécurité de l'État devraient réfléchir au lieu d'arrêter les voleurs de poules, les voleurs de coques et les poursuivre, les traquer. C'est là qu'il faudrait que l'on puisse repenser que dans ce service, que l'intérêt supérieur de la nation soit mis en première position, qu'on ait des institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts. Hein, et parce que c'est là que les synergies des services de renseignement devraient réfléchir pour identifier avec exactitude, pas en allant en tâtonnant, comme on est en train de l'entendre du président de l'Assemblée provinciale, du président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée provinciale, qui se pose des questions comme nous, les hommes de la rue. Voilà, c'est là qu'il faudrait qu'on repense nos services de renseignement pour nous donner des réponses exactes et même anticipées pour savoir si ça peut venir dans deux ou dans trois mois encore. Quand est-ce qu'ils vont encore revenir? Parce que on peut banaliser tout, mais il y a eu mort d'homme, mon frère.
Père Jean-Pierre Boujoukou, je vous en prie, Gaston, je vais vous repasser la parole. Je pose d'abord la question au père Jean-Pierre Boujoukou. Qu'est-ce faut-il faire pour finalement prévenir ces genres d'attaques dans cette ville? Et Joël Kadé-Danga vient de parler de l'instauration des institutions fortes et au lieu des hommes forts. À part cette proposition, quelles sont les autres propositions que vous faites?
Bon, je ne pense pas que moi je ferais des propositions qui obligeraient de trouver une solution définitive, mais des réflexions qui aident, qui aideraient les
autorités à prévenir.
D'abord, nous devons avoir le sens de l'histoire, que chaque fois qu'il y a quelque chose, si ça arrive une fois, ça peut être les hasards. Mais si c'est déjà deux ou trois fois, ce n'est plus les hasards, il faut dire qu'il y a quelque chose.
Et surtout lorsqu'il s'agit des endroits stratégiques.
Les endroits stratégiques.
Et les points névralgiques.
Voilà, ça signifie qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? Alors, il faut entrer en profondeur pour faire alors des études stratégiques, comme a dit Joël, et savoir alors mobiliser toutes les forces nécessaires, ça signifie les services de renseignement, les services militaires, la police, pour essayer de prévenir. Puisque d'abord, si on sait ce qui s'est passé avant, on prend les résolutions pour prévenir après. Sinon, ce sont seulement les événements qui nous rattrapent et nous subissons les événements au lieu de les assumer.
Gaston Mouchid, vous vous proposez quoi pour prévenir ce genre de situation? Joël Kadé-Danga a parlé des institutions fortes au lieu des hommes forts. Le père Jean-Pierre Bodjoko lui a parlé de la mobilisation des services de renseignement.
Ah oui, on parle le même langage, hein. Il n'y a pas 36 solutions à une situation comme celle-ci, comme c'est une situation qui vient à répétition, et il faut que les services de renseignement, il faut que la commission qui a été montée à propos puisse travailler et donner des conclusions capables d'éviter, comme l'a dit le révérend père, que demain, qu'il y ait encore 4 personnes qui meurent à l'aéro et des choses comme ça. Mais là où je voulais aussi intervenir, c'est que c'est trop facile. En République démocratique du Congo, le Katanga est toujours clochardisé. C'est-à-dire qu'il suffit que 2-3 personnes se tirent dessus, qu'on parle de la sécession, de l'autodétermination. Moi, je crois que le Katanga, aujourd'hui, c'est une province qui est dans un pays comme toutes les autres provinces. Donc, à partir du moment où ça avance, il y a des institutions, on n'a pas besoin d'une autodétermination et on n'a pas besoin que des gens prêtent au Katanga des intentions des institutionnalistes ou des gens qui cherchent à l'autodétermination. Je crois qu'il faut faire une enquête et démontrer que tel a fait quoi et qu'on évite qu'à la longue, des gens se tirent dessus, même si c'est des gardes républicains. Pourquoi est-ce qu'ils doivent semer la panique sur la ville en se tirant dessus? Donc il y a là le service de renseignement, le service de sécurité qui doivent faire leur travail pour qu'on évite ce genre de situation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Ngoy était à la technique et Kéline Kouté à la réalisation, assisté de Samuel Kachak sous la supervision de Julien Niamouani devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capitole.